des récits et des ondes.
Ультразвуковой вибратор «Суперсоник». Фантастика.
Bienvenue à notre nouvelle émission des Récits et des Ondes. Bonjour Roxane.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, notre invité est Frédéric Muller, qui va nous parler de son nouvel ouvrage qui s'appelle « Histoire d'eau ». Eh bien, bonjour Frédéric.
Bonjour.
D'abord, « Histoire d'eau », est-ce que tu pourras un peu nous expliquer ? On t'avait déjà reçu d'ailleurs pour deux autres livres que tu avais fait sur la solastalgie. Merci. Et un autre sur histoire de sorcière. Et donc ici, histoire d'eau, est-ce que tu pourrais, qui fonctionne sur le même processus, tu pourrais nous expliquer un peu quel est le contenu finalement de ce livre histoire d'eau?
Alors, le contenu, c'est un contenu d'analyse des imaginaires et des représentations de l'eau, principalement au cinéma, avec également quelques compléments rédigés par mes collègues sur la musique et le jeu vidéo. Et l'idée, c'est de traverser les films en essayant de dégager des imaginaires qui sont... à même à susciter des émotions pour nous reconnecter à notre sensibilité au vivant. Et pour lire ces films, le cinéma, pour construire la grille de lecture, je regarde énormément de films, je lis pas mal de livres pour saisir les enjeux. Et je rencontre aussi une série de personnes qui sont des personnes plus de terrain, on va dire, qui peuvent être des artistes, des militants, des personnes qui travaillent à la gestion de l'eau, des personnes qui ont un contact avec l'eau, qu'il soit technique ou artistique ou voilà, institutionnel.
Mais donc c'est principalement, et je trouve aussi l'originalité, c'est d'aborder ce sujet de l'eau à travers des films de fiction ou alors des films documentaires, effectivement, et agrémentés par ces interviews. Et alors tu les as, le livre est découpé en trois chapitres, tu pourrais nous en dire un mot ?
Oui, alors il y a trois chapitres. En effet, le premier chapitre, c'est vraiment le cœur de ce qui m'a animée dans ma démarche. C'est vraiment une exploration du cinéma en essayant de recenser les films dans lesquels l'eau joue un rôle, avec vraiment cette envie de voir comment le cinéma pouvait réveiller notre sensibilité au vivant, comment certains extraits peuvent susciter, comme je le disais, des émotions qui nous permettent de ressaisir ou de dévoiler les verbes de l'eau, les fonctions de l'eau, les actions de l'eau. Donc ça avait cette fonction, voilà, de proposer des ressources, mais aussi des grilles de lecture du cinéma. Et donc j'ai essayé de regrouper ensuite des motifs assez récurrents sur ces fonctions de l'eau, et j'ai essayé de mettre en évidence des verbes. Alors les verbes, ça peut être l'eau qui hydrate, l'eau qui permet la germination, la croissance ou la transformation ou la métamorphose. Donc cette eau qu'on boit, c'est aussi l'eau qui berce, l'eau qui soulage la fatigue, l'eau qui porte les corps, avec vraiment cette idée d'une fonction très, très, très apaisante pour le corps et pour l'esprit de l'eau. Ça peut aussi être l'eau qui engloutit, l'eau qui inonde, l'eau qui dévaste, l'eau qui abîme, dans le sens de entraîner dans les abysses, donc l'eau qui noie. Et puis c'est aussi l'eau qui dilue, qui dissout, qui charrie des déchets, qui emporte. C'est aussi l'eau qui sépare, par exemple, qui oppose une rive à l'autre, ou qui permet le lien, qui met en lien, quand par exemple elle met en lien l'amont ou l'aval, l'amont et l'aval. Et puis bah, c'est aussi l'eau qui circule entre les corps et le vivant d'une manière générale, donc entre l'eau des corps, l'eau du dedans et l'eau du dehors. Mmh. Voilà, c'est cette même eau qui circule en fait sur la planète depuis 3 milliards d'années.
Alors à la fin de ton ouvrage, il y a quand même... pas mal de références. Combien de films il y a plus ou moins qui sont cités?
Oh, alors je les ai plus en tête
ou
là,
que tu
mais
as vu
c'est
aussi.
Oui, alors, on est au moins sur 500 films. Là, je les ai pas comptés, mais dans chaque livre, c'est entre 300 et 600 films. Voilà, et donc ceux-là, je les ai vraiment mis au profit de cette première partie. La deuxième partie, c'est une partie qui est davantage consacrée aux enjeux, donc à l'eau sur un côté politique, donc les conflits d'usage, les problèmes aussi de qualité de l'eau, de quantité, donc sécheresse, inondation, etc. Là, j'ai beaucoup... aussi travailler sur certains imaginaires, donc recours à la fiction, mais aussi avec des ressources documentaires qui sont aussi très intéressantes. Et la troisième partie, c'est des histoires qui sont destinées à, depuis cette ambivalence de l'eau, donc l'eau qui permet la vie, mais aussi l'eau qui peut tuer, cette fameuse eau qui à la fois détruit, permettre le renouveau, et ben justement comment depuis cette situation ambivalente et problématique aujourd'hui, hein, puisque l'ONU oui. vient de décréter qu'on était en faillite mondiale de l'eau, hein, ça veut dire qu'on a consommé plus d'eau douce que la capacité des écosystèmes à la régénérer la ressource peut permettre. Donc voilà, on est quand même face là à un rapport à l'eau qu'il faut réinventer. Et donc bah, y a des gens qui réinventent là, une cohabitation avec l'eau.
Mais donc on peut, avec ce livre Histoire au pluriel d'eau, voir un peu comme un second volet avec le précédent ouvrage qui était Récit en solostalgie, puisque ici, même si on a un espèce de consentement au pire avec cette faillite mondiale de l'eau, avec cette eau qui est canalisée, avec cette lecture du territoire qui devient beaucoup plus figée, il y a quand même ici dans ton ouvrage toute une série de récits positifs qui essaient de réinventer ça. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ?
Oui, en fait, ce qui me touche, moi, émotionnellement, c'est ce qui a touché certaines personnes que j'ai interrogées aussi, comme Olivier Pestiot, par exemple, qui est porteur du projet Sambre 2030, c'est de réaliser qu'en fait, on s'est habitué à une forme très appauvrie de ce qu'est un fleuve. Hein. Baptiste Morisot explique... qu'on a en tête l'image d'un fleuve qui est réduit à son lit mineur, c'est-à-dire vraiment un trait bleu sur une carte, et on a complètement oublié la forme vivante qu'ont normalement les cours d'eau qui sont faits de méandres qui bougent, qui gonflent, qui s'étendent sur les côtés. On a perdu non seulement la cohabitation avec ces formes vivantes des fleuves, mais l'idée même, en fait, le souvenir, la représentation, l'image de ce que c'est qu'un fleuve ou qu'une rivière. Et donc, ce rapport-là à l'eau est problématique aujourd'hui, parce que cette manière-là d'avoir corseté les rivières dans des berges bétonnées, ça accélère le cours de l'eau, ça a un ensemble de conséquences sur les écosystèmes qui est problématique, ça empêche aussi le transport de sédiments, etc. Et donc, un ensemble de problèmes qui fait qu'aujourd'hui, les terres sont déconnectées des fleuves, elles sont asséchées, et en même temps, les cycles de l'eau sont accélérés, et donc on fait face à des problèmes à la fois de sécheresse et d'inondation dont les conséquences sont aggravées. Donc il nous faut vraiment réinventer notre rapport à l'eau. Donc, moi, mon travail, c'est un travail sur les imaginaires, notamment à travers le cinéma, mais il y a des gens dont le travail est vraiment de réinventer la relation au fleuve sur le terrain. Par exemple, Hydrologie Régénérative vient de se créer en Belgique, et leur action, eux, porte beaucoup sur une forme d'eau qu'on n'a pas forcément en tête. C'est l'eau verte, hein, c'est l'eau qui est stockée dans le végétal, avec vraiment trois piliers, c'est-à-dire ralentir l'eau, donc retrouver des moyens que l'eau ne dévale pas directement dans la maison, la faire s'infiltrer et cultiver aussi des possibilités de stockage avec des végétaux et des choses comme ça. Donc travailler aussi sur le sol et les végétaux. Donc ça, c'est un exemple. Et il y a d'autres exemples qui sont, par exemple, retrouver les stratégies des castors, qui sont pour nous la possibilité d'avoir des guides venus d'une autre espèce animale qui a une expérience très ancienne et très longue de cohabitation, de coévolution avec les formes vivantes des rivières, puisque Baptiste Morisot explique qu'au moment de l'Holocène, c'est même cette espèce-là qui a favorisé les milieux propices au développement de sa vie pour lui, pour l'espèce castor, mais aussi pour un ensemble d'autres espèces, dont la nôtre. Donc on aurait aujourd'hui à retrouver les conséquences de la manière que le castor a d'habiter les cours d'eau, pour que nous aussi, on puisse retrouver des espaces favorables à la vie.
Est-ce que tu dirais que ton livre s'adresse à un public de spécialistes ?
Oh non, alors. non, mon travail, c'est vraiment un travail de partage, de films qui m'ont touchée, qui m'ont fait penser à. C'est vraiment un travail de mise en lien entre le cinéma et les enjeux. Donc je suis allée rencontrer des spécialistes et j'ai retranscrit l'échange que j'ai eu avec les spécialistes. Moi, je suis vraiment plus intéressée par la petite cuisine que je fais entre le cinéma et les enjeux. Et cette petite cuisine-là, elle est destinée à parler à un ensemble de publics très, 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 très différents qui peuvent être... des jeunes dans des hautes écoles, des éducatrices en éducation à l'environnement, des artistes qui seraient intéressés pour faire des films sur l'eau, des conteurs et des conteuses, pourquoi pas.
Sans oublier monsieur et madame tout le monde.
Et monsieur et madame tout le monde.
Mais aussi, tu parlais des imaginaires, et il y a quelque chose qui est quand même assez frappant par rapport à l'eau, c'est toute cette espèce de symbolique des couleurs de l'eau. Donc tu parlais de l'eau verte, là c'est l'eau avec le végétal, mais il y avait aussi l'eau pure, transparente, bleue, et les eaux noires, par exemple, celle de la mélancolie. Et il y a un des passages que tu cites qui est probablement une des scènes de film qui a dû choquer des générations d'enfants, qui est celle avec Atreyu, dans l'histoire sans fin, qui laisse son cheval Artax... qui essaie de dégager son cheval de l'eau noire, de la mélancolie avec ce marais terrible. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment constant, ce travail de la symbolique de l'eau ?
Oui, ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de le saisir. Ça fait partie de ces formes d'eau, l'eau qu'on a en nous, on n'y pense pas. L'eau des marécages, on la pense peu aussi. On pense peu d'ailleurs à la disparition des zones humides, hein, qui est extrême, hein, là, depuis ces 50 dernières années, et qui pose tout un tas de problèmes sur le fonctionnement des écosystèmes. Et cette disparition des zones humides, elle nous touche peu, parce que je crois que c'est une eau qu'on a appris à disqualifier, en fait. C'est une eau dont on se méfie, c'est une eau qu'on a appris à penser comme étant une eau sale. Et c'est assez ancien, hein, comme conception. Je pense que déjà chez les Romains, il y avait une différence entre une eau libre et une eau stagnante. Et dans nos imaginaires, et au cinéma, on le voit très très fort, il y a vraiment cette opposition entre une rivière qui est une surface, celle qui offre le reflet, le scintillement, l'horizon, donc une eau qui est plutôt fraîche, qui est plutôt dynamique aussi, une eau vive, une eau qui circule. Et si on veut caricaturer, on a l'eau des marécages qui est une eau lourde, une eau stagnante, une eau qui va ressasser des matières, des fantômes, des souvenirs, une eau dans laquelle on va s'enfoncer, on va rester emprisonné. Et donc voilà, symboliquement, c'est l'eau de l'oubli, c'est l'eau où le corps se retrouve aspiré, paralysé, l'esprit aussi. Voilà, au cinéma, on a très très fort cette opposition. Voilà.
Un peu de musique. C'était donc Mandy Indiana et le titre Magazine. On écoute toujours donc l'émission Des récits et des ondes avec Frédéric Muller aujourd'hui comme invité.
Et on est en train de parler d'histoire d'eau, les eaux multiples, les eaux qui sont dans nos récits, qui sont aussi bien avec un rapport au cinéma de fiction que documentaire et avec un lien au territoire qui est quand même assez évident. Il y a quelque chose aussi qui m'a fort marqué par rapport à cette grosse collecte, cette immense collecte, parce qu'il y a vraiment plus de 500 films qui sont répertoriés, et je pense qu'il y a une bonne centaine de documentaires aussi. C'est ce qui se passe en mer du Nord, quand tu évoques ce qui... Nous, on y va nager, c'est l'été, etc. Mais il y a des choses qui se passent en dessous. Et voilà, c'est assez impressionnant d'imaginer ça. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Oui, il y a un documentaire dont j'ai parlé dans le film, dans le livre, qui raconte comment on a, après les guerres mondiales, laissé les restes d'armement se décomposer lentement en mer du Nord, pas très loin de la côte, hein. Et évidemment, avec le pouvoir corrosif de l'eau, un des nombreux pouvoirs de l'eau, et surtout de l'eau salée, eh bien l'emballage, la coque, hein, qui isole ces détritus des écosystèmes devient fragile. Donc c'est pas une perspective très agréable de penser à ça quand on va nager. Donc il y a un risque sanitaire réel, hein, mais ça me fait aussi penser à plus généralement une manière, un rapport qu'on a eu à l'eau, qu'on a entretenu à l'eau pendant longtemps, parce que là jusqu'à présent on a pas mal parlé de l'eau comme une surface, mais c'est aussi une profondeur, et évidemment c'est... tentant d'aller jeter des choses dans l'eau parce que du coup elles y disparaissent. Et alors au cinéma on a cette image sur un côté un peu poétique où parfois on va confier à l'eau des choses parce qu'elles sont trop pesantes pour nous, et donc l'eau va aller s'en emparer pour les soustraire à notre regard, et c'est en même temps ça les fait disparaître, et en même temps c'est comme si ça les protégeait, les préservait, comme si l'eau, et notamment l'eau des mers, était un peu comme une mémoire comme ça, un peu individuelle et aussi collective. Je pense à certaines scènes de films où par exemple on va jeter des photos. Alors il y a ça dans plein de films, il y a dans En amont du fleuve qui raconte l'épopée de deux frères à la recherche de leur père, il y a une photo qui est jetée à la fin, mais il y a aussi ça dans Terminator, il y a aussi ça dans Titanic en fait, hein, avec le collier qui est jeté à la fois comme un secret et à la fois comme une promesse de peut-être pouvoir reprendre l'histoire là où elle s'était arrêtée dans le temps. Donc il y a ce côté-là poétique, mais il y a aussi le côté, on y déverse des choses parce que l'eau va les emporter au loin, et les choses en question, ça peut être des déchets, ça peut être des produits toxiques, des produits chimiques. Les industries ont déversé pendant longtemps leurs détritus dans l'eau, et même si c'est toujours aujourd'hui très surveillé et très, très encadré, des accidents continuent à arriver, et de toute façon... Toutes les substances chimiques qu'on déverse sur un sol finissent par atterrir dans l'eau par des effets de ruissellement. Et ça me fait penser à un autre documentaire qui raconte la relation qu'ont entretenue les Parisiens avec la Seine, et qui montre une image assez frappante, une photo qui a été prise de rive de la Seine dans les années 60, avec un petit panneau qui montre « Prière de jeter vos ordures dans la Seine ». Avec vraiment, du coup, cette idée que pour que les berges soient propres, il valait mieux tout balancer dans l'eau. Et ça, je crois que ça reste... quand même un imaginaire assez présent, voilà, l'idée que l'eau va faire disparaître, quoi. Voilà. Il y a aussi parfois le fait de confier des corps à l'eau. Alors, si on veut garder que le côté poétique, c'est parce que l'eau va aussi amener ses corps vers un autre monde. Mais il y a aussi le côté un peu plus macabre qui est que l'eau va faire disparaître la trace, l'épreuve.
Roxane, je te propose de commencer par notre jeu, ou alors tu avais peut-être encore une question ?
Non, on peut commencer par le jeu.
Alors le jeu, c'est que nous avons écrit quelques mots qui traversent ton ouvrage sur des post-it, Et donc c'est le hasard qui va nous mener vers une balade à travers ton ouvrage et ton livre.
Allez.
Frédéric, choisis un post-it.
J'ai pris le premier. La naissance des pieuvres.
Voilà.
Alors ça, c'est un film qui se passe principalement dans une piscine et qui raconte les émois amoureux d'adolescentes qui passent... enfin, le film, j'allais dire qu'il passe là le plus clair de leur temps, mais en fait, on n'en sait rien. Le film se passe là. Mais en tout cas, c'est le cœur de leur vie, puisque leur vie... a pour cœur les relations qu'elles se découvrent, les émotions, les sentiments qu'elles se découvrent les unes pour les autres. Et c'est intéressant parce que il n'y a pas d'en dehors de la piscine, en fait. On voit très peu les moments d'école, l'intervention des parents, du monde extérieur, tout ça est hors champ. Donc c'est vraiment l'eau comme un espace de découverte de ses désirs, de son corps, du regard, assez complexe, notamment à l'adolescence.
Donc c'est un film de Céline Sciamma, si je prononce bien, et qui date de 2006, et dont c'est un des tout premiers films d'Adèle Hanel aussi, donc, qui joue là-dedans aussi.
Ouais.
Ok, très bien. Un autre post-it.
Gravity.
Alors, je t'explique parce que je n'aurais pas forcément pensé à l'eau quand j'ai vu le film Gravity. Donc voilà, j'étais un peu intrigué par ta grille d'analyse, justement.
Oui, bah, c'est fait partie de mon travail, en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas aller chercher que des films qui parlent de l'eau. Parce que ce serait perdre... tout un tas de séquences dans des tas d'autres films qui parlent de tout autre chose, mais dans lequel à un moment donné il y a une scène qui se passe dans l'eau, et cette scène là elle a un impact dans le récit ou pour la trajectoire des personnages. Dans La naissance des pieuvres, clairement, l'eau, c'est l'élément de l'adolescence, quoi, dans toute sa complexité. Et dans Gravity, bah, c'est marrant parce que c'est aussi un peu une histoire de transformation, quelque part. Alors, il y a une manière de regarder Gravity, qui est un film qui se passe dans l'espace. Hein, donc, ces deux astronautes qui sont dans l'espace, qui ont un problème technique, et la jeune femme revient seule dans une capsule qui s'échoue dans la mer. Ça, c'est l'histoire du film. Et ce qui est intéressant, c'est pour moi de regarder le film dans les images qu'elle propose, parce que tout le temps qui montre l'astronaute, la femme dans l'espace, montre un corps qui est extrêmement vulnérable et qui est comme en gestation. Donc elle est souvent rattachée à un cordon, à la station spatiale, donc on a vraiment... comme l'image d'un corps qui est en développement intra-utérin, comme ça. Et du coup, l'arrivée sur Terre, le retour, pardon, sur Terre, c'est un grand splatch dans la mer, mais elle finit par s'extirper tant bien que mal, puisque sa masse musculaire a diminué de cette petite capsule qui lui a permis de survivre et de revenir sur Terre. Et elle se retrouve un peu dans l'eau, elle rampe, vraiment jusqu'à la plage, et ensuite elle se redresse et là on a vraiment un mouvement de contre-plongée qui raconte un peu comme une condensation de revenir à la vie ou d'arriver à la vie. Alors soit en tant que femme qui a grandi, qui a vécu une épreuve, il s'est passé des tas de choses dans l'espace, et donc voilà, c'est comment cette expérience l'a transformée, et comment en replongeant dans l'eau et en en ressortant, c'est comme une renaissance, quoi. Et donc là, il y a un côté assez poétique de l'eau. Et ça me fait penser à comment on se raconte l'histoire de l'évolution de la vie, du coup. Parce que l'eau, pour nous, c'est assez évident que c'est l'eau des origines. C'est l'eau qui permet la vie sur Terre depuis 3 milliards d'années. Mais quand on se raconte cette histoire-là, l'histoire de l'évolution de la vie, on raconte souvent l'histoire d'une sortie des eaux et même de conquête des terres. On trouve aussi ces termes-là. Et du coup, on voit hein, cette image d'un organisme un peu simple qui vit dans l'eau et puis qui se complexifie. Et puis, tout en se complexifiant, à la fois il grandit, il se redresse, mais il pénètre de plus en plus profondément dans les terres. Et donc, on a cette idée que la complexité de la vie, l'évolution, c'est l'émancipation du milieu d'origine. Et là, Baptiste Morisot, encore lui, raconte que on pourrait beaucoup nuancer cette histoire, en fait. On ne s'est pas émancipé de ce milieu d'origine. En fait, sans cesse, on emporte l'eau avec nous. On a toujours besoin d'eau. Et toutes les espèces animales aujourd'hui ont développé, la nôtre et presque toutes les autres, des stratégies pour emporter l'eau avec elles. L'eau des yeux, l'eau du corps, l'eau qui permet de donner naissance et même d'accueillir la gestation hein, avec le liquide amniotique, etc. Pas mal d'espèces ont besoin d'un retour au milieu aquatique aussi pour la reproduction ou la ponte. Ou, voilà. Et donc, voilà, il raconte comment plein d'espèces ont développé ces stratégies pour non pas s'émanciper et défaire le lien, mais garder le lien et emporter l'eau avec soi.
Ok, avant de continuer avec les 189 post-it qui restent encore, un peu de musique. Marie Delprat dans le morceau « Aboub ». Eh bien, nous sommes toujours avec Frédéric Buller et ses post-it. Et voilà. Donc, si tu veux bien en choisir un troisième. Suspense.
Le castor.
Ah, chouette.
Le retour du castor, si seulement. Oui, j'en avais déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Ce que je pourrais juste ajouter, c'est vraiment... Pour revenir encore à mon travail, qui est un travail sur les imaginaires, c'est que souvent, et notamment dans des films animés pour les enfants, par exemple, quand on voit des castors, on les voit construire des barrages. Et donc, pour nous, ça, c'est vraiment le truc du castor. Un castor, ça construit des barrages, et ça semble particulièrement... frappant pour les humains et humaines que nous sommes. Des tas d'animaux construisent des tas de choses, hein, mais quand ils le font, en général, ça nous interpelle. C'est comme si le fait de construire des choses ça devait nous être propre. Les oiseaux font des nids, les termites, les fourmis et des tas d'autres animaux font des tas de constructions incroyables. Mais le castor, lui, il est souvent considéré comme l'ingénieur des rivières. On trouve parfois ça même dans certains documentaires. Et ce qui est assez rigolo, du coup, c'est que on se méprend un petit peu sur ce que c'est qu'un barrage de castor, parce que c'est pas du tout, bien que le mot soit le même, un barrage tel que les humains le font. C'est pas un barrage qui arrête l'eau, c'est un barrage qui la retient, et c'est un barrage qui l'envoie un peu sur les côtés, comme ça, qui crée des zones humides. Donc c'est un peu dérangeant pour nous, parce que du coup, ça crée des tas de zones qui échappent à un contrôle très fort du cours de l'eau, mais c'est ça qui permet le développement des écosystèmes résilients et dont on aurait re-besoin aujourd'hui. Et c'est en ça que le castor peut être un guide intéressant.
Ok, bien merci. Tu voulais poser une question, Roxane?
Il y a un travail de diplomatie à faire aussi à l'égard du castor. C'est pas pour rien que Morisot s'y est tellement intéressé. Lui qui est vraiment un diplomate interespèce magnifique. Est-ce que tu as rencontré un peu des témoignages par rapport à ça? Parce qu'il est à la fois apprécié par certains, certaines, et on a eu lors des grandes inondations il y a quelques années des castors qui ont été vraiment même crucifiés parce qu'on les a accusés d'avoir contribué aux grandes inondations.
Oui, on les accuse parfois d'aggraver justement par la création de ces zones humides dont on comprend mal le rôle en fait aujourd'hui, puisque toutes nos stratégies de développement des villes et des villages est basée sur le fait qu'on allait contrôler le flux de la rivière, et quand on a des problèmes, la tentation est grande d'avoir recours à l'ingénierie lourde et davantage de contrôle. Le castor nous propose tout à fait un autre modèle qui est celui de laisser l'eau circuler et déborder au besoin. Et c'est en ça que le travail de diplomatie c'est très pertinent aujourd'hui et en même temps très compliqué. Parce que là, il faut un peu faire confiance à des dynamiques de régénération des écosystèmes en abandonnant la volonté et l'idée même qu'on pouvait prétendre à un contrôle du vivant. Et donc là, le travail de diplomatie, il prend tout son sens parce que c'est vraiment laisser de la place à l'autre dans ce qui va être le plus difficile pour nous à accepter, c'est-à-dire se retrouver face à l'aléa, au non-contrôle, et laisser de la place, c'est-à-dire se retirer. On a construit, là je pense par exemple aux inondations qui se sont déroulées dans le sud de la France, autour de la Garonne, énormément d'habitations s'étaient installées dans la plaine inondable, parce qu'on avait cette idée que c'est bon, on avait contrôlé le cours du fleuve. Et donc laisser de la place, ça veut aussi dire ça, se reculer. Et évidemment, ça devient extrêmement complexe, puisqu'il faut négocier avec du coup des aspects sociaux, humains, économiques. Et on voit bien aussi, là je pense aux inondations qui ont eu lieu ici en Belgique au niveau de la vallée de la Vesdre, que les inondations ont tendance à toucher d'abord les populations qui sont déjà dans des conditions de vie les moins favorables. Et donc ces questions-là sont d'autant plus sensibles.
Un autre petit post-it.
Je commence à m'inquiéter. Olivia. Olivia, c'est une des personnes...
Tu n'as pas dit son nom de famille.
Non.
Parce qu'il est compliqué
que j'ai
à dire.
Peur
oui.
De l'écorcher. Schwarzburgt. Désolée, Olivia, si j'ai écorché ton nom. C'est une personne que j'ai rencontrée il y a fort longtemps dans différents contextes de travail. D'abord pour des questions de collapsologie, d'effondrement, d'enjeux alimentaires. Voilà, c'est une personne qui a beaucoup travaillé aussi sur toutes ces questions-là, mais qui a été formée en Amérique du Sud récemment, enfin ces dernières années, ça a quand même pris quelques années, à la pratique d'être une gardienne de l'eau et de prendre soin de l'eau. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup développé ce lien de soin, tout en reconnaissant le caractère très ambivalent de l'eau. Donc pour elle, c'est vraiment essentiel de considérer que l'eau, c'est aussi l'eau du déluge, donc c'est l'eau qui détruit et qui emporte tout. Elle raconte dans l'interview d'ailleurs qu'elle a le souvenir de, dans sa maison chez ses parents d'un tableau qui montrait ça, ce pouvoir de l'eau de tout emporter, de tout remettre à plat, et que c'est ce geste-là de destruction qui permet aussi le renouveau. Et dans les choses qu'elle a vécues, elle raconte comment dans les montagnes, elle a assisté à des pratiques, par exemple, quelque chose que je trouve très beau dans des choses, dans des gestes de soins, c'est de nettoyer, de purifier tout le trajet de l'eau depuis la source jusqu'au village. Donc là où elle a été, c'est carrément un village qui bloque l'écoulement de la source pour qu'il puisse tout nettoyer. Et quand c'est fini, donc à la fois dans sa matérialité, dans la matérialité du lit, de la source, mais aussi d'un point de vue plus spirituel, quoi, donc avec des rituels. Et quand tout ça a été fait, il réouvre l'écoulement de la source et l'eau s'écoule à nouveau, et il y a une fête ensuite dans le bas du village. Et donc ça, je trouve que c'est aussi très beau de mesurer en fait à quel point on a besoin que cette eau continue à circuler. Je pense à des tas de films qui commencent avec des sources qui ne coulent plus où on voit bien que tout s'arrête en fait, tout s'arrête, la vie s'arrête, ça crée des tensions, voilà, on ne peut pas se passer d'eau. Et elle est gardienne ici en région bruxelloise d'une toute petite source, et elle transmet cette attention, ce lien avec des rituels qu'elle fait plus ou moins une fois par an. Voilà, pour garder la conscience, l'existence, ce lien un peu sacré de gratitude aussi, je crois. Voilà, un lien qui est réenchanté.
Ok, merci. Eh bien, moi je décide, comme disait Julie Rune.
Make mistakes and chances, though I may be at a disadvantage, but I
I Decide. Et je pense que Roxane a dit aussi I Decide, et qu'elle va nous lire un extrait de la brochure Histoire d'eau de Frédéric Buller.
Alors, sans surprise, c'est évidemment les grandes profondeurs qui m'attirent, avec l'extrait Secret et Abysse. L'eau recueille aussi de nombreux objets jetés ou perdus, comme le ferait un coffre. C'est un motif assez récurrent au cinéma. C'est la tâche que s'est donnée à un savant amnésique dans la cité des enfants perdus. Ramasser et étiqueter tout ce qui vient du monde d'en haut. Dans Titanic, la rescapée, âgée de 102 ans, revenue sur les lieux du naufrage avec une équipe de recherche, jette ainsi dans l'océan le collier précieusement gardé pendant plus de 80 ans. Un objet non seulement de grande valeur, mais surtout le souvenir d'un amour tragique qui a changé sa vie. Dans The Storm, une jeune mère célibataire dans les années 50 aux Pays-Bas porte à son annulaire une vieille bague de fortune faite avec un boulon. Une bague pour lui rappeler autant son ancien amour que le fait que les hommes ne sont pas dignes de confiance. Quelques années plus tard, elle laisse tomber cette bague dans la mer, ayant de nouveau commencé à espérer un compagnon pour la soutenir dans ses épreuves. Dans Terminator et en amont du fleuve, ce sont des photos du passé qui sont jetées dans les flots d'un fleuve, celles d'un amour perdu ou les souvenirs d'un père idéalisé trop longtemps. Il ne s'agit pas tant de s'en débarrasser que de les faire s'enténébrer, de les confier à la mer, dans une mémoire plus profonde encore que celle d'une vie humaine, celle de la terre. L'eau reçoit tant d'objets et d'expériences qu'elle détient bien quelques secrets.
Eh bien, merci. Un commentaire, Frédéric ?
Non, ça va. Je pourrais embrayer, mais...
D'accord.
Non.
Mais donc, écoute, alors, de toute façon, on a encore deux post-it, donc je t'en laisse choisir un. Quel suspense.
La jeune fille sans main. L'adaptation d'un conte, si je m'abuse.
Voilà, c'était pour faire un peu un lien par rapport à... effectivement, notre activité, notre émission autour du conte. Et une très, très belle histoire donc, qui a été mise en film. Je ne me souviens plus, je l'ai noté ici. Voilà. En 2016, par Sébastien Lodenbach. Donc, voilà.
Alors moi, je ne connais pas la version conte. Je connais que le film, qui est assez joli, hein, graphiquement. C'est un dessin... qui apparaît et qui disparaît d'une manière assez poétique. C'est comme si la continuité ne tenait qu'à un fil tout le temps. Hein. C'est assez ténu, j'allais dire. Je ne sais pas, ce mot surgit, mais il y a quelque chose d'assez fragile dans la mise en image de ce conte. Et souvent, ce fil, c'est la rivière. Donc c'est une jeune fille qui est convoitée par un personnage assez maléfique. Donc sans tout dévoiler, elle perd ses mains, elle s'échappe, elle rencontre un prince, elle a un enfant, elle s'échappe à nouveau. Voilà, je mets tout ça un peu dans le désordre pour
non,
pas trop
juste,
raconter
c'est,
des
c'est,
choses. Mais,
c'est un très bon résumé du conte.
Voilà.
Aussi.
Bah, c'est une jeune fille, en tout cas, qui s'échappe hein, tout le temps, qui cherche un refuge, hein, qui cherche un endroit de sécurité. Et la rivière, dans cette histoire, c'est une guide, c'est un espace refuge qui va lui montrer le chemin, lui montrer la voie. Et, moi, il y a un extrait que j'aime vraiment beaucoup dans ce film, c'est un moment où elle suit une route. Vers les montagnes et la route enjambe la rivière et donc il y a comme un carrefour et donc elle doit choisir entre continuer sur le chemin ou éventuellement choisir la voie de la rivière et elle dit je me souviens que la rivière a toujours été mon guide et donc elle quitte le chemin donc le chemin des humains et humaines et elle longe la rivière qui la conduit jusqu'à sa source et ça voilà j'aime bien cette image de l'eau guide. Voilà.
Mais je pense qu'il y a un dernier post-it qui fera peut-être un lien avec ce que tu viens de dire. Peut-être.
La bataille de l'eau noire. Alors, il y a un lien parce que c'est de l'eau, mais là, on est vraiment dans une autre
Alors,
dimension.
Alors, prends le dernier post-it.
Alors, Anna Lockwood, là, on est sur un travail d'enregistrement de... Mmh. De l'histoire des fleuves. Donc là, on est sur le registre des enregistrements sonores. Donc là, j'ai fait appel à des collègues pour travailler sur ce sujet qui sont moins mon domaine. Je me souviens que dans les échanges que j'ai eus avec les collègues, on a beaucoup cherché à savoir ce qu'on allait mettre ou pas dans ce travail. Mmh. De la même manière qu'on s'est posé ces mêmes questions-là avec le documentaire, parce que souvent, quand on cherchait... moi, je voulais faire des portraits de fleuves, des témoignages de fleuves. Et souvent, tous les enregistrements, tous les témoignages semblaient un peu tourner autour du fleuve. Et donc, il a fallu un peu... réfléchir à différentes démarches artistiques de recueil de témoignages d'habitants, d'habitantes, d'histoires, de quel rôle le fleuve avait dans les vies, en fait, dans l'histoire de l'évolution des villages, des villes, des personnes, de quelle démarche artistique, en fait, aussi, quelle démarche artistique était à l'œuvre dans certains films. Voilà. Et donc finalement, ça a donné des portraits de fleuves, souvent, là je pense beaucoup aux documentaires que je connais mieux, qui sont davantage des portraits de gens du fleuve, en fait.
C'est ça.
Des témoignages de liens, en fait, des histoires de liens. Mais parfois, la présence du fleuve est même assez peu dite, mais elle est vécue, en fait. Et c'est l'eau qui façonne certains modes de vie, certains déplacements. C'est aussi une dimension qui est intéressante à saisir.
Oui, si je me souviens bien, Anna Lockwood, c'est ce qu'on appelle du field recording. Et donc, elle l'a fait notamment sur la rivière Hudson, c'est un de ses plus connus, et où effectivement, elle enregistre une série de sons qui montrent un peu cette descente de la rivière Hudson aussi. Elle a fait la même chose avec le Danube.
Oui.
Et donc, c'est vraiment un enregistrement... de son d'une rivière.
De son de l'eau, mais aussi de son de la vie qu'il y a
voilà,
autour.
Voilà, c'est ça, oui.
Voilà.
Tout à fait.
Et donc, c'est pour ça que moi, ça m'évoque des histoires de liens. Et alors, c'est des balades comme ça où on ne raconte pas quelque chose à comprendre, mm-hmm. mais c'est vraiment plus sentir comment il y a une espèce de résonance. Là plus au sens de peut-être Hartmut Rosa sur le à quel point nos vies ont besoin d'espace de nature pour en tant qu'espace de résonance, donc sans contrôle, sans voilà, juste pour que nos pensées puissent être en écho au milieu naturel. Et donc là, moi, ce que j'aime bien vivre dans ces moments d'écoute-là, c'est vraiment d'être transporté dans un autre mm-hmm. milieu, et on sent bien que ce déplacement est assez fertile pour reconsidérer notre lien au milieu, quoi.
C'est ça, oui.
À celui qu'on connaît ou à ceux qu'on ne connaît pas.
Alors, on arrive à la fin de notre émission.
Oui, mais je voulais juste signaler que le livre Histoire d'eau et le précédent aussi, Récits en solostalgie, sont encore disponibles. On sait que la médiathèque nouvelle, malheureusement, a été annihilée il y a quelques mois de façon surprenante et violente. Oui. Voilà. Mais donc ça veut dire qu'il n'y aura malheureusement pas de prochain livre dans la continuité de ce projet de démocratisation des récits par rapport au territoire et à d'autres thématiques. Mais il est encore possible de se procurer Histoire d'eau et Récits en solostalgie dans certaines bibliothèques.
Au prix de
en prêt. Voilà, donc nos publications, les publications de Médiathèque Nouvelle, donc que ce soit habité ou raconté en solastalgie, qui était plus une enquête sur cette question des récits dans notre période actuelle, qui est marquée par à la fois la dégradation de nos milieux, mais aussi peut-être l'espoir qu'on serait un moment de bascule vers le pire ou vers le meilleur, ça c'est quand même encore à choisir. Hein. Ici, Histoire d'eau, donc ces publications-là sont normalement disponibles en prêt dans toutes les bibliothèques. Il y a 14 bibliothèques réparties dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles qui ont aussi un petit stock de publications à distribuer gratuitement. Nous, on est ouvert, enfin moi en tout cas, je travaille jusqu'à la fin du mois d'avril 2026. Donc on peut encore s'occuper de réapprovisionner ces points jusqu'à avril 2026. Après, pas. Ceci dit, moi je continuerai à porter ce travail-là et je pense que je suis très facile à trouver via à peu près tous les réseaux sociaux possibles.
Donc, Frédéric Müller.
Voilà.
Et c'est Müller avec deux L.
Oui, M-U-2-L-E-R.
Voilà. Eh bien, un grand merci, Frédéric. Et nous, on va se retrouver, Roxane.
On se retrouvera le 6 mai pour d'autres récits.
Et on se quitte en musique. Studying about that good old way, and who shall live the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, come on down. Come on, brothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down, down in the river to as I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, mothers, let's go down, come on down, don't you wanna go down? Come on, mothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way.
Ультразвуковой вибратор суперсоник. Фантастика.